Le programme qui va suivre vous est présenté par le Centre missionnaire Philadelphie sur Avenue de la Science, Kinshasa Gombe. Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Soyez transformés par la puissance de la parole de Dieu. Bonne condition d'écoute. Que Dieu vous bénisse.
Adoré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être psalmodié, tu es digne d'être acclamé, tu en es digne, tu en es digne. Alors que Jean avait l'impression que les défis qui étaient lancés ne trouvaient pas preneur, l'ange lui a dit ne pleure pas, ne pleure pas. L'agneau a été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Tu es digne d'être adoré. Ce matin, nous les chantons, nous les confessons, mais nous voulons aussi ajouter, tu es digne d'être écouté. Nous voulons dire comme Samuel, parle, tes serviteurs écoutent. Parle, tes serviteurs sont ouverts. Parle, tes serviteurs sont disposés à faire ce que toi tu voudras. Parle, Seigneur, et que ce soit vraiment toi qui parles. Qu'il en soit ainsi pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais nous inviter à lire les livres de Genèse. Genèse au chapitre 32. Nous partons du verset 24 au verset 32 aussi. Genèse 32, du verset 24 au verset 32. J'ai la certitude que le message que Dieu m'a mis à cœur d'apporter ce matin, en tant que prédicateur, c'est aussi, c'est pas toujours le genre de message que j'aime prêcher. On ne prêche pas toujours ce qu'on aime, on prêche ce que Dieu veut. Mais j'ai aussi conscience que c'est le genre de message que l'auditoire n'aime pas entendre. Et pourtant, c'est ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Nous allons lire. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui répondit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeant en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il est béni là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Le soleil s'est levé, lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point la tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Comme vous l'avez vu dans le bout de papier, le thème que nous abordons ce matin, c'est brisé, changé, diminué, mais béni. Brisé, changé, diminué, mais béni. Ce bout de texte que nous avons lu est un tournant décisif dans la vie de Jacob le patriarche. Cela fait 20 ans qu'il a quitté les territoires où étaient sa famille, son père, sa mère, ainsi que son frère. Il a quitté dans des conditions assez tragiques, parce que quelque chose venait de se passer et il était dans l'obligation de partir. Et là où il était parti, il s'est posé aussi un problème. Comme la Bible dit, les visages de Laban, son beau père, ne fut plus les mêmes avec lui. Alors il décida de retourner. Alors qu'il rentre, il a conscience qu'il a l'obligation de retrouver sur son chemin quelqu'un avec qui il s'était séparé, pas dans de bonnes conditions. Il est tremblant. Il sait que les enjeux sont forts. Et ce que j'aime, c'est que lui-même craint un moment de solitude. Il se sépare de ses femmes, il se sépare de ses enfants. Je peux m'imaginer, la tension est au comble. Il se demande qu'est-ce qui va se passer. Il se demande comment son frère va-t-il réagir quand il va le voir. Et comme je l'ai dit, ce passage est un tournant. Dans la vie de Jacob, il y aura un avant et un après cette scène. Les versets 25 ainsi que 31, auxquels nous pouvons ajouter les versets 27 et 28, nous résument le double changement que Jacob a connu à cette occasion. Les versets 25 et 31 nous montrent que physiquement, Jacob n'a plus jamais été la même personne après ce jour. Physiquement, il est changé. Que dis-je? Il est diminué. Il est méconnaissable. Deux groupes de gens qui l'ont connu avant, sûrement ne l'ont plus reconnu après cette scène. D'un côté, Ésaü, leur père, qui depuis 20 ans ne l'avait plus vu, ils ont connu quelqu'un marchant bien, quelqu'un courant, quelqu'un sautant, quelqu'un apte à faire toutes sortes de choses, mais plus tard, quand ils voient cette personne rentrer, seuls les visages et quelques traits sont les mêmes, mais la locomotion, la manière de marcher n'est plus la même. Il se demande qu'est-ce qui s'est passé pour Ésaü et sûrement pour Isaac. Ils se disent que peut-être cela s'est passé chez Laban, là où il était parti. Jacob, il n'a jamais boitillé. Nous avions quelqu'un qui avait ses deux jambes. Qu'est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui il rentre en boitillant, en ayant un handicap dans son corps? Mais je pense le deuxième groupe le plus étonné, ça devait être ses femmes ainsi que ses enfants. Ces 13 personnes qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé en quelques heures. Qu'est-ce qui s'est passé là où il était? À peine hier, il s'est séparé d'avec nous, il avait tous ses membres. Il était bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu quelqu'un rentrant, gémissant, pleurant de douleur, mais diminué, j'aimerais dire, diminué par Dieu. Ce matin, j'aimerais vous parler de Dieu qui donne des coups. J'aimerais vous parler de Dieu qui frappe. J'aimerais vous parler de Dieu qui diminue les gens. J'aimerais vous parler du Dieu qui abaisse. Ce n'est pas seulement le Dieu qui bénit. Et quelquefois, le chemin de la bénédiction passe par les coups. Et je prie, s'il en est nécessaire, Seigneur, ce matin, frappe quelqu'un. Seigneur, dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent, frappe quelqu'un comme tu l'as fait pour Jacob. Diminuer ce jour-là. Le verset 25 dit, voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui.
J'aimerais vous dire que ce coup qui est donné par celui qu'on appelle cet homme, mais qui n'est que la préfiguration de Dieu et mieux de Christ, c'est un coup prémédité. C'est un coup réfléchi. C'est un coup donné à dessein, pas au hasard. C'est un coup donné avec les dosages appropriés. Ce coup est donné au bon endroit, de la bonne manière, par celui qui lui seul a créé les corps. Et il connaît chaque endroit, quel est le but, quelle est la fonctionnalité de chaque endroit. Et si je frappe à tel endroit, qu'est-ce qui va se passer? Louis II dit, l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise. Français courant dit, l'articulation de la hanche s'est déboîta. Traduction écuménique de la Bible, Taub dit, la courbe du fémur s'est déboîta. Mais parole de vie dit, il est blessé à la hanche. Les termes qui est utilisé là dans deux versions, c'est démettre ou déboîter. Dans sa racine en hébreu, veut dire deux choses. Cet homme veut dire premièrement déplacer une partie articulée du squelette sous l'effet d'une torsion ou d'un choc. Choc créé par Dieu, torsion voulue par Dieu. Est-ce que le Créateur peut-il faire mal à sa créature? Ce terme aussi veut dire déloger un objet de son emplacement habituel, mais avec violence. Et c'est ce que Dieu fait. Il est fait avec quelqu'un qui l'aime. En médecine, en traumatologie, on parlerait de luxation, c'est-à-dire déplacement des os d'une articulation. Et les commentateurs disent que les chocs ou les coups que Jacob a reçus a eu une incidence à quatre niveaux. Premièrement, ces chocs ont touché le squelette. Désormais, il y a déséquilibre. Ce choc a dû avoir lieu là, au niveau où les bassins et l'os du fémur viennent se joindre, frapper à dessein. Mais deuxième choc, ce choc a dû toucher la chair, car les déplacements de l'os s'est sûrement accompagné d'un traumatisme interne, déchirure au milieu. Il a l'os qui a quitté son endroit, mais en plus il y a déchirure et il peut sentir la douleur. La médecine n'était pas autant développée qu'aujourd'hui. On peut s'imaginer la douleur atroce que Jacob a eue au moment du choc, les heures qui ont suivi. Mais j'insiste, ce coup est donné par Dieu. Troisième chose que ce choc a dû créer, ce choc a dû avoir touché un nerf important. Les commentateurs disent que ça a dû toucher ce qu'on appelle les nerfs sciatiques. Un nerf très sensitif, un nerf aussi moteur qui innerve les bassins, la partie du postérieur, et qui va quasiment jusqu'au niveau de la cuisse. Je me souviens, une année après mon mariage, un jour j'ai eu à faire un faux mouvement juste en voulant ramasser quelque chose. J'ai souffert du nerf sciatique. Et je me souviens combien ça faisait atrocement mal. J'arrivais plus à m'asseoir. Même quand on m'appelait pour que je puisse courber, je devais quasiment faire comme un véhicule. Et pourtant, les chocs étaient à cet endroit. Et le Créateur, il sait, il dit, pour que je puisse toucher l'orgueil de cet homme, pour que je puisse les changer, je dois frapper. Et bien frapper. Et je prie encore, Seigneur, frappe quelqu'un dans les jours qui viennent. Frappe-le bien. Quatrième choc que ce coup a dû créer, ce choc, il est psychologique. Il est psychologique car cet homme est changé. Vous savez, il y a des changements pour lesquels quand on n'a pas été préparé, on est détruit. J'en parlais il y a quelques mois en arrière. J'ai une cousine qui se réveille en début d'année, c'était l'année passée, et qui va faire un examen, des routines, parce qu'elle sentait comme des magnétismes au niveau de la poitrine. Et puis on découvre qu'elle a un début de cancer des seins. Non seulement un début de cancer des seins, mais ça avançait déjà. Et le médecin lui a dit, la seule chose à faire, c'est l'ablation. Ah, et vous savez, pour une femme, cette partie du corps, combien elle est importante. C'est sa féminité, c'est sa valeur. Et je revois cette cousine quand on a enlevé cette partie. Choc psychologique. J'ai eu à parler avec son mari, il a dit, la plupart des fois qu'on est ensemble, elle me regarde, elle veut se dire, est-ce que je l'attire encore? Est-ce qu'il ne reste pas avec moi par pitié? Est-ce qu'il ne se dit pas, bon, puisqu'on a commencé, est-ce que même quand il veut aller avec moi, est-ce que c'est, il a envie ou bien il se dit non, si je ne le fais pas, il va croire, elle va croire que. Choc psychologique. J'ai connu quelqu'un qui a étudié avec moi à l'université. Un jour, simplement en faisant du sport, il a eu une foulure et mal soigné. Quelques temps après, on a dit, il faut amputation. Je l'ai rencontré une fois à l'aéroport, loin d'ici, avec une prothèse. Et les gens qui le connaissent disent, depuis qu'il porte cette prothèse en bois, c'est plus la même personne. Diminué, Jacob. Le grand Jacob, fort, capable de sauter, capable de faire toutes sortes de choses. Sa femme et ses enfants les voient y rentrer, boitillant. Lui-même n'était pas préparé à être diminué comme ça. Femme et enfant n'étaient pas non plus préparés à voir quelqu'un comme ça. Désormais, sa démarche ne sera plus la même. Il ne pourra plus faire le fier. C'est fini, Jacob. Il y a des choses qu'il faisait auparavant qu'il ne peut plus faire. Courir, il enlève ça de son vocabulaire. Rendre service, il y a des choses qu'on ne peut plus lui demander. De porter un poids. Jacob, c'est toi le père de la famille. Vas-y, prends ce poids, mène à tel endroit. Désormais, on ne peut plus lui demander. Pourquoi? Parce que Dieu l'a frappé. Et le verset 32 dit, « Le soleil s'éleva lorsqu'il passa Peniel. » Jacob boitait de la hanche. J'ai pu imaginer la scène. Il a dû rester longtemps. Non, peut-être que ça va changer. Non, je ne peux pas aller les voir comme ça. Et puis il a attendu, rien n'est changé. Il dit, que puis-je faire? Et puis il les voit venir. J'aimerais dire, quand Dieu brise, ce n'est jamais caché. Quand Dieu brise, les gens voient. Quand Dieu brise, il y a des cicatrices qui restent. Il boitait de la hanche. La version française courante dit, il boitait à cause de sa hanche. Jacob, comme je dis, reçoit un choc qui le change, le diminue, mais aussi l'enrichit. Il est diminué physiquement, diminué psychologiquement, diminué émotionnellement, mais il a gagné spirituellement. Combien de fois Dieu ne trouve pas nécessaire pour élever quelqu'un, il faut l'abaisser. Ces coups, ainsi que la cicatrice qu'il laisse, comme je dis, les diminue sur le plan social, mais l'élève à jamais sur le plan spirituel. Ces coups et ces chocs voulus par Dieu l'abaissent à ses propres yeux et aux yeux des autres, mais l'élève à jamais aux yeux de Dieu. Le premier changement, il est physique, mais le deuxième changement, il est identitaire. Même son nom est changé. Ils l'ont vu changer physiquement. Il ne marche plus comme il marchait. Mais étonnant, quand il rejoint femme et enfant, on l'appelle Jacob. Il dit non, je ne m'appelle plus Jacob. Je m'appelle désormais Israël. Mais il y a 3 heures, il y a 5 heures, il y a 6 heures, on t'appelait encore Jacob. Il dit, quelqu'un a changé mon nom. Changé physiquement, changer aussi sur le plan identitaire. Le verset 28 nous dit, l'ange dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. Vous savez, le nom de Jacob signifie usurpateur, voleur, celui qui acquiert des choses par des voies détournées, celui qui acquiert des choses par des voies non recommandées. Mais Dieu lui dit, tu ne seras plus appelé usurpateur. Tu ne seras plus appelé celui qui acquiert des choses par des voies détournées. Tu seras appelé Israël, prince avec Dieu. Élevé par Dieu. Élevé à cause de Dieu. Placé très haut à cause de Dieu. Placé très haut à cause de Dieu, mais diminué physiquement. Et à ce niveau,
Je me redis qu'avec Dieu, on ne triche jamais. Avec Dieu, on ne prend jamais des raccourcis. Avec Dieu, on n'achète jamais de bulletins comme au Congo. Tu as échoué à Maloué quand tu vas acheter un bulletin pour passer à la tenue de Ngiringiri. Ni vu, ni connu. Avec Dieu, on ne triche jamais. Aide-moi à dire à ton voisin, avec Dieu, on ne triche jamais. Les versets 26 et 27 nous parlent de certaines choses. Premièrement, du désir de Jacob d'être béni, c'est-à-dire d'être équipé de cette aptitude qui rend capable de réussir. C'est ce qu'il désirait. Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Ce qu'il veut dire, donne-moi quelque chose qui m'équipe pour la réussite. La réussite que je cherche depuis des années. La réussite que je crus avoir reçue les jours où mon père a prononcé des paroles alors que j'ai dévancé Esaü. J'ai cru l'avoir quand j'étais chez Laban, mais il y a quelque chose qui m'échappe. J'ai l'impression que je ne l'ai pas totalement. Je veux la totalité, je veux l'authenticité. Désir sincère, toi qui veux la bénédiction, comment fais-tu pour l'avoir? Mais bizarre, alors que lui sollicite la bénédiction, l'ange de l'Éternel vient lui poser une question anachronique, qui apparemment n'a rien à voir avec la bénédiction. Je ne te laisserai point partir que tu m'aies béni. Et l'ange lui dit, quel est ton nom? Comme je le dis, cet ange, c'est Christ lui-même, omniscient. Est-ce qu'il ne connaît-il pas son nom? Ne sait-il pas à qui il a affaire? Le Dieu qui pouvait dire à Ananias, va à tel endroit sur la rue appelée la droite. Tu trouveras un homme appelé Saul en train de prier. Il connaît tout. On raconte l'histoire d'un homme qui se faisait passer pour Dieu au Congo. Il semble qu'il habitait Lemba. Et un jour, il a pris son véhicule, il allait vers Limété. Il est arrivé au coin d'une rue, puis il a demandé, l'avenue telle, c'est où? Et les jeunes gens l'ont reconnu, ils ont dit, oh, je n'aimerais pas citer son nom. On dit, c'est pas tel qu'on a jeté après Dieu. Il dit, ah, c'est vrai. Banaboui binga. Il dit, ah. Et puis on lui dit, mais papa, bon, oui, on zambé, vous avez une adresse. Toi, Dieu, tu demandes l'adresse. Tu es censé être omniscient. Quel est ton nom? Jacob a dû s'étonner. Pourquoi me demande mon nom? Quel est ton nom? Ce qui veut dire, quelle est ta vraie identité? Qui es-tu réellement? J'aimerais que tu me le dises. Tu veux la bénédiction, je veux te la donner. Mais avant que je te la donne, je veux que tu assumes qui tu es. Je veux que cela sorte de ta bouche. Ce matin aussi, Dieu m'a envoyé pour te poser la question. Quel est ton nom? Qui es-tu? Quelle est ta vraie identité? Nous, on te voit venir à l'église. Mais Dieu sait qui tu es. Impudique avec I majuscule. Infidèle à ta femme. Tu as l'air bien, mais accro à la pornographie comme jamais. Qui es-tu? Jeune fille à qui l'on donnerait le ciel avec des chignons. 18, 19 ans. Mais qui sort avec des papas 50 ans, 60 ans. Qui es-tu? Qui es-tu, maman apparemment respectueuse qui vient à l'église, mais voleuse de mari d'autrui? Qui es-tu? Homme de Dieu, prêchant, chantant, faisant des choses, mais pécheur plus que ceux du monde. Comme l'apôtre pouvait... L'apôtre Paul pouvait dire, il y a de l'impudicité parmi vous, plus qu'on en trouve dans le monde. Quel est ton nom? Je veux te bénir, mais je veux que tu me dises d'abord, qui es-tu? Quel est ton nom? Et cette question que Dieu pose, c'est un moyen pour Dieu de corriger quelque chose.
que Jacob avait cru avoir obtenu 20 ans en avant, mais de manière frauduleuse. C'est pour cela que j'ai dit, avec Dieu, on ne triche jamais. Proverbe 10, verset 22 dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, quand Dieu équipe, on se voit. Quel est ton nom? 20 ans en avant, il avait obtenu quelque chose, mais avec une fausse identité. Genèse 27, verset 11 à 19 nous en parle. Elle est longue la lecture, mais elle vaut la peine d'être faite. Jacob répondit à sa mère, 27, 11 à 19. Voici Ésaü, mon frère, est velu et je n'ai point de poils. Alors que sa mère vient lui proposer, ton père est entre la vie et la mort, il faudra que tu ailles obtenir la bénédiction. Et Jacob tremble. Il dit, c'est vrai, papa ne voit plus, mais physiquement on n'est pas les mêmes. Quand je vais m'avancer, quand papa va me toucher, il va me reconnaître. Et Jacob argumente. Voici Ésaü, mon frère est velu, et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et j'aime ce que lui-même, il avait une bonne théologie, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Il essaie. Si je n'utilise pas les voies qu'il faut, au lieu de la bénédiction, j'aurai la malédiction. Maman, j'en veux pas. J'aimerais vous poser la question, qui vous écoutez? À qui vous accordez vos oreilles? On sent que Jacob tremble, mais Jacob est encouragé par maman. Vas-y, vas-y. Qu'il y a des femmes qui sont bien fidèles à leur mari. Elles ont peut-être quelques problèmes avec, mais elles ont des mauvaises conseillères. Colien a mis bas les uns, Colien a ndoké. Il faut kebaka. Manger avec les hommes, c'est manger avec des sorciers. Nous sommes appelés au moins 1000, au moins 300 bons, mes mamans. On ne sait jamais. Il te donne 1000, tu prends 300, tu mets de côté. De temps en temps, il te donne 2000 dollars, tu viens en pleurant, en mettant du VIX. Tendre que dans un de couilles. Et un mensonge avec M majuscule. Mais le but derrière, dans ce moment, terrain en passe. Que j'achète un terrain en passe, parce que lui, si tu le demandes officiellement, il ne va pas te donner. Qui tu écoutes? Et toi aussi, conseillère, dites chrétienne, si je te connaissais, je te donnerais un bon coup. Écoutez la réponse de la mère. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va les prendre. Ouah! Qui tu écoutes? Que des gens qui sont bien, mais qui deviennent mauvais. Je me souviens quand on grandissait, il y avait cette idée, je pense, vraiment venue de l'enfer. J'avais 15, 16, 17 ans. Des cousines venaient passer quelques jours à la maison. Et des amis me disaient, Roland, tu laisses les cousines comme ça. Parce que les cousines sont faites pour les cousins. Qui te poussent à l'inceste. Que ça retombe sur moi. C'est ce qu'elle dit. C'est pas ton problème, c'est mon problème. Mais pourtant, la fin, ce n'est pas Rebecca qui a un problème, ce n'est pas la conseillère, c'est Jacob. Mon père me disait toujours cette belle phrase, il dit, Roland, la vie c'est comme la boxe. Les gens peuvent te conseiller, t'entraîner, mais sur les rings tu es seul. Quand tu reçois un coup à la mâchoire, quand l'entraîneur dit, je suis avec toi, mais n'a pas senti ce que tu as senti. Tu l'as senti seul. Rebecca, tu m'es conseillé, mais où es-tu comme ange cassé? Où es-tu quand je suis diminué, Faites attention aux conseillers. Parce qu'à la fin, c'est vous qui assumez. C'est moi qui assume, c'est nous qui assumons. Épouse simplement cet homme. Hein? Même s'il est âgé, Toshina Era. On va seulement avoir son argent. Quand tu auras le sida, la conseillère ne sera pas là. Quand chaque matin, il te faudra prendre 8 médicaments, trithérapie. Rouge, jaune, orange. Ah, vous rigolez, la conseillère ne sera pas là. Quand tu auras des ganglions, quand en une heure tu commenceras à faire 8 tours aux toilettes, tu seras seul. L'abbé dit, l'homme portera seul la peine de ses iniquités. J'ai appris sur le chemin de la vie à dire non, même aux gens que je respecte. Fermement, mais poliment, j'ai dit non. Elle veut la pousser, l'obliger à aller dans cette direction. Que cette malédiction, mon fils retombe sur moi, écoute simplement ma voix et va les prendre. Jacob alla les prendre, les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Verset 15, ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouva à la maison, et les mit mettre, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. J'ai pu imaginer comment il tremblait. Verset 16, elle couvrit ses mains de peau de chevreau. Il est allé tuer un animal, parce qu'il faut que Jacob fasse du Ésaü. Il couvrit ses mains de peau de chevreau et son cou qui était sans poil. Et les plaça dans les mains de Jacob, son fils, les mets et les pains qu'il avait préparés. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, mais voici. Et le père pose la question. Qui es-tu, mon fils? Je veux bénir, mais je veux connaître l'identité de celui que j'ai béni. Qui es-tu? Écoutez la réponse. Jacob répondait à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. J'ai pu voir son cœur battre à la chamade parce que les menteurs ne sont jamais en paix. S'il y en a un ici, il peut témoigner. Quand on ment, on n'est jamais en paix. Il tremble. Va-t-on découvrir ma fausseté? J'ai tout fait, mais est-ce que ça va passer? Et écoutez ce que la suite. Nous dit au verset 21. Isaac dit à Jacob, approche donc. Que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. J'ai pu imaginer ce qu'il a ressenti quand il a entendu ça. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob. Il s'est dit, aïe, bazuingaï. On m'a attrapé. Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Le verset 3 dit, il ne l'a reconnu pas parce que ses mains étaient velues. Comme les mains d'Ésaü son frère, et il est béni. Le verset 24, il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Pour la deuxième fois, Jacob répondit, c'est moi. On peut mentir aux hommes, mais pas mentir à Dieu. Il a cru avoir la bénédiction, mais il ne l'a pas vraiment eu. Et Dieu a dit, les paniers ne comptent pas. 20 ans tourné en rond pour avoir l'authentique. Et il se rend compte que malgré ce qui a été dit, il n'a pas eu ce qu'il faut. Et Dieu le fait revenir à la même classe. Parce que comme je dis, avec Dieu, on ne saute pas des classes. Il désire encore la bénédiction. Et Dieu dit, quel est ton nom? Ce que j'aime, si avant Jacob s'était fait passer pour Ésaü, là pour la première fois, il assume son identité. Quel est ton nom avant que je te bénisse? Il dit, je suis Jacob. Ce qui veut dire, je suis le menteur. Je suis l'usurpateur. Dieu va faire beaucoup de bien à quelqu'un ce matin, cette semaine, mais il faudra que tu assumes. Je suis coureur de jupons. Je suis voleuse de mari d'autrui.
c'est ce que je suis. Et Dieu va aussi non seulement t'aider à assumer le nom qui cache ton identité, mais il va aussi changer ton nom. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob. J'ai décidé aujourd'hui, parce que tu as assumé, tu ne seras plus le voleur. Tu ne seras plus l'usurpateur. Tu ne seras plus celui qui prend des choses par des voies détournées. Je te donne une identité qui va t'accompagner désormais, prince avec Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le voleur, l'usurpateur, Dieu peut le changer en prince avec Dieu. Mais pourvu qu'il assume. Changer physiquement, changer sur le plan identitaire. Et cela passe par une réalité qui est appelée les brisements. Les brisements, une bénédiction à laquelle s'attache un malheur et une tragédie. Les mots brisement et la réalité du brisement, c'est vraiment des choses présentes dans toute la Bible. Et cette réalité a certains principes que j'aimerais mentionner avant que nous puissions lancer deux appels à la fin et prier. Premier principe attaché au brisement, c'est que le brisement a souvent Dieu comme base et auteur. Job chapitre 19 au verset 10 dit, c'est Job qui dit, Dieu m'a brisé de toutes parts. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui brise. Le Dieu qui frappe. Le Dieu qui donne des coups. La version Nouvelle Bible et Seconde dit, Dieu m'a démoli. Dieu est un démolisseur. Job 19, 10. Parlant de Jésus-Christ de manière prophétique, Esaïe avait vu ça. Dans Esaïe chapitre 53, verset 10, j'ai toujours été frappé par ces versets. Esaïe a vu quelque chose, il a dit, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Le Dieu de la Bible les brise. Quelquefois, les brisements et les chemins pour que les choses cachées sortent. Pas d'odeur de parfum sans vase d'albâtre brisé. Pas de multiplication de pain sans que le pain soit brisé. Dieu va amener un ministère à un niveau supérieur. Dieu va amener des affaires à un niveau supérieur. Dieu va changer la vie de quelqu'un. Mais je vous l'ai dit, dans les jours qui viennent, Dieu va briser. Et quand il brise, il le fait sans anesthésie. Les brisements font mal. Très mal. Mais les brisements sont bons. J'aimerais dire comme les quinoa, les brisements sont jolis. Chitoko. Les brisements. Il casse. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il y a des choses qui plaisent à Dieu et qui ne nous plaisent pas. Mais ça lui plaît. Il dit, c'est mon plaisir, mon bonheur de les casser. Seigneur, tu vas diminuer Jacob. Il dit, c'est la seule voie, le seul chemin pour qu'il devienne meilleur. Quand Esaïe dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, la version Darby dit, il a plu à l'Éternel de le meurtrir. Le terme meurtrir, il avait dit blessé par contusion en laissant une marque sur la peau. Ce terme aussi veut dire abîmé en faisant subir un choc. Et celui qui abîme en faisant subir un choc, c'est le Dieu bon. Dans Jérémie chapitre 48 au verset 38, Jéhovah lui-même déclare, sur les toits de Moab et dans les places, ce ne sont que lamentations parce que j'ai brisé Moab. Dieu se vante. J'ai brisé Moab comme un vase qui n'a pas de prix. Dans Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 4, Jérémie qui subit les chocs du brisement s'écrit, il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. Deuxième principe par rapport au brisement, c'est que le brisement a toujours un but. Dieu ne brise jamais pour rien. Un but souvent caché à nos yeux. À nos yeux, à nous qui subissons, mais des buts connus par lui. Le brisement peut avoir plusieurs buts. Le premier but peut être pédagogique. Dieu veut nous apprendre des choses. Il y a des fois, le meilleur enseignant, c'est la souffrance.
Le meilleur enseignant, c'est la honte. Le meilleur enseignant, c'est l'humiliation. J'en ai souvent parlé quand j'enseigne aux serviteurs de Dieu. Ce principe que celui qui m'a appris les béaba du ministère, qui est maintenant auprès du Seigneur, le frère Jacques-André Vernon. Il disait, Roland, en termes de guérir les hommes de Dieu de leur faiblesse, Dieu a deux méthodes. La première méthode s'appelle l'humilité. Et dans l'humilité, c'est l'homme de Dieu qui prend l'initiative, qui va vers un autre. Il applique ce que la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Vous savez, dans nos Bibles, on aime souligner, tu seras toujours la tête et jamais la queue. Il sera béni dans les champs, mais ce genre de verset ne s'est pas souligné. On aime même bien la partie qui vient avant. La prière de Jésus a une grande efficacité. Mais juste la partie attachée à ça dit, confessez vos péchés. Et le feu pasteur Vernon disait, la meilleure manière, c'est l'humilité. Dans l'humilité, c'est moi qui, je me dénude, je m'ouvre. J'ai dit, Israël, je suis Roland Dallo, mais prie pour moi. J'ai la convoitise terrible. Quand des jeunes filles viennent au bureau, voilà ce que je ressens. Rima, prie pour moi. Les gens me voient prêcher. Mais chaque fois que je suis devant l'ordinateur, je ne m'empêche pas de regarder les films pornographiques. Je peux aller vers Jacques. Jacques, prie pour moi. J'ai commencé à tripoter la jeune sœur à mon épouse. J'ai des victoires en dents de scie. Des fois, je dis, tu ne dois pas continuer, j'arrête, mais j'y retombe encore. Dans l'humilité, c'est quelqu'un qui va vers papa. Pasteur Olivier dit, j'ai fait partie du protocole et du comptage, mais il m'arrive quelquefois de soutirer quelques billets. Et je me donne toutes sortes d'excuses. J'ai dit, la dîme, c'est pour les lévites. Moi aussi, je suis lévite. Mais chaque fois que je les prends, je sens ma conscience troublée. L'humilité. Très peu a plu que cela. Parce que nous aimons garder notre image. Dieu sait si l'on grattait derrière mon image, derrière ton image, ce qu'il en restera. Mais le feu pasteur Venon disait, celui qui refuse l'humilité, dans la stratégie de Dieu, il ne reste plus que l'humiliation. Et dans l'humiliation, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui t'expose. Et je n'ai jamais oublié, le feu pasteur Venon me disait, Roland, Dieu n'expose jamais son enfant et son serviteur du premier coup. Et si Dieu finit par exposer quelqu'un en public, c'est qu'en coulisses, il lui a donné plusieurs possibilités. En disant, arrête, ne fais pas. Je suis venu déclarer ce matin comme un prophète, les jours qui viennent, si quelqu'un ne change pas, nous aurons des scandales en cascade. Retenez cette date. Les brisements ont toujours un but pédagogique. Que c'est dur d'apprendre en ayant des cicatrices. Que c'est dur quand tu es la base d'un scandale. Non seulement ça te touche, ça touche ta femme. Elle ne peut plus aller au marché. J'ai pu m'imaginer si Viviane sera relevé la tête. Non, quand elle est roulant, elle a fait une machine. Est-ce qu'elle saura encore marcher? Est-ce que Gloria Johanna pourra encore dire un mot à l'école? À la récréation, tu veux jouer avec quelqu'un? Papa n'a pas mon lasso. Votre père, coureur de jupons, inarrêtable, presque un chien. Seigneur, épargnez-moi d'amener de telles choses sur ma famille. Mais quelquefois, pour Dieu, la meilleure manière d'apprendre, c'est quand vous vous cassez. Honte. Vous avez envie de fuir. Vous dépassez un groupe de gens, ils chuchotent et vous savez que c'est de ça qu'ils parlent. Vous commencez comme la femme samaritaine au puits de Jacob et à éviter des attroupements. Les endroits où vous voulez aller, vous allez à des moments où vous êtes seul, afin que vous ne soyez pas l'objet des colibés. J'aimerais dire à quelqu'un, je le dirai à la fin, tu peux éviter les brisements. But pédagogique. Mais le brisement a aussi un but thérapeutique. Guérir un mal. le plus souvent un mal récurrent, caché, enfoui des regards, mais connu de Dieu. J'aime quand le psalmiste dit, même quand je fuirai, tes yeux me verront. J'ai beaucoup aimé ce qu'un théologien a dit. Dieu est capable de voir une fourmi noire assise sur un rocher noir dans la nuit la plus sombre. Ce qu'on peut cacher aux hommes, on ne peut les cacher à Dieu. Mais les brisements aussi comme but l'enrichissement. Apporter un plus. Mais l'enrichissement par l'appauvrissement. Psaume 119, verset 67 et verset 71. Les psalmistes disent, avant d'avoir été humilié, et ce terme humilié dans sa racine en araméen veut aussi dire brisé. Avant d'avoir été brisé, je m'égarais, je manquais de direction. Mais maintenant, j'observe ta parole. Quelquefois, pour que quelqu'un retrouve la direction, Dieu doit aller briser. Dieu dit, il manque de direction, il manque de discipline, il manque de ceci. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te retrouver sur un lit séropositif et devenir sérieux avec Dieu. Dieu m'a dit de dire à un homme qui trompe sa femme ici, ça m'est revenu trois fois quand j'étais loin d'ici. J'ai vu même son visage. J'ai dit, Seigneur, dois-je aller lui dire? Il m'a dit, non, Roland, prêche. Dieu m'a dit de te dire que la dernière fois que tu l'as trompé, que ce soit ce que tu as fait avant ce dimanche. Car la prochaine fois, ça sera un scandale. Si tu le fais et que ça ne se passe pas, tu reconnaîtras que je ne suis pas un prophète. Mais puisque j'en suis un de la part de Dieu, je l'ai dit à quelqu'un, je ne suis pas prophète par le ministère, mais j'ai des crises de prophétie. De temps en temps, ça m'arrive. Et je te le dis parce que Dieu t'aime. Arrête! Il m'a donné cette parole pour te dire la mort est dans les pots. Au verset 71, le psalmiste ajoute, il m'est bon d'avoir été humilié. Le terme humilié là aussi veut dire brisé. Et quand il dit il m'est bon, ce terme en hébreu veut dire profitable, enrichissant, bizarre. En quoi une humiliation peut-elle être bonne? Il dit il m'est bon, il m'est profitable d'avoir été humilié. Il est profitable à Jacob d'avoir été cassé. Il est profitable à Jacob d'avoir été brisé. Profit attaché au brisement. Hébreux 5, verset 8, parlant du maître. La Bible parle des choses qu'il a apprises, mais la Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Pour que je lui apprenne l'obéissance, il doit être sous torsion. J'ai vu quelqu'un qui triche au travail. Je l'ai vu avec mes yeux. Dieu m'a dit, Roland, prêche. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais aller lui parler. Dieu m'a dit, Roland, parle-lui. C'est un dernier avertissement. Sinon, vous aurez un membre de l'église qui ira à Makala. Et j'ai vu 15 ans. Je viendrai te visiter. Mais après la visite, moi, je rentrerai à la maison. Avec ma femme et mes enfants. Mais toi, tu resteras. Mais j'aimerais te dire, Dieu m'a dit, tu peux éviter ça. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui m'aide à dire amen. Amen. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Job 33, verset 19, après avoir dit que Dieu parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'Éternel ajoute, par la douleur, d'autres versions disent, par les brisements aussi, l'homme est repris sur sa couche. Des fois, il n'y a pas mieux que les coups de la douleur pour faire réfléchir. Troisième principe, les brisements peuvent avoir plusieurs visages. Les brisements peuvent avoir les visages de la honte, de l'humiliation, du scandale, d'une exposition. C'est-à-dire quelque chose que l'on faisait en secret, mais que Dieu révèle, amène aux yeux de tout le monde. Les brisements aussi peuvent être la perte d'une chose. Il te fait perdre ce travail. Et tu te retrouves non pas comme monsieur, madame, tout le monde. Tu ne reviens pas là où tu étais, tu vas en dessous. Brisement. Tu avais plusieurs véhicules. Tu les perds et tu deviens piéton avec P majuscule. Au départ, pour maintenir les niveaux, tu prends les taxis express. Puis finalement, ton budget ne te permet pas. Tu es obligé de t'adapter à monsieur et madame tout le monde. Quand les gens te voient, ils disent, c'est Sosina Yetouye. Est-ce bien lui ou bien quelqu'un qui lui ressemble? Psaume 38, verset 3, verset 7 et verset 9. Les psalmistes déclarent, tes flèches m'ont atteint, les flèches de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu lance des flèches. Hein, je sais que tu ne vas pas les dire avec conviction. Si aussi autre chose, tu vas lui dire, Théa, 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 Théa. Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est apaisantie sur moi. Verset 7, il dit, je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Pourquoi? Dieu l'a frappé. Au verset 9, il dit, je suis sans force, entièrement brisé. Les troubles de mon cœur m'arrachent. Des gémissements. Dans 2 Samuel chapitre 12 verset 11, lorsque Dieu veut briser David, il lui dit par la bouche de Nathan, après que David ait non seulement commis l'adultère avec Bathsheba, mais il a fait tuer Uri, un innocent. Et Dieu lui dit, voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre et qui couchera avec elle à la vue du soleil. Pour toucher ton ego, pour t'amoindrir, pour te dévaluer, pour te réduire à un bon à rien. Ésaïe 47 au verset 3, Jéhovah dit à Babylone, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Dieu dit, moi-même je viendrai enlever le pagne. Je dirai aux gens, voyez qui il est réellement. Voyez sa vraie nature. Dieu dit, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. Dans Job chapitre 12, verset 21, Jéhovah est présenté comme celui qui verse les mépris sur les grands et qui relâche la ceinture des forts. D'autres versions disent, qui relâche la ceinture des hautains. Tu es hautain, imbu de toi-même. Lui-même, il vient, il enlève ta ceinture, il dit, voici qui il est réellement. C'est Dieu qui le fait. Le Dieu de la Bible est le Dieu bon. Quatrième principe, comme pour Jacob, les brisements ne touchent jamais n'importe où. Ils touchent à l'essentiel. À ce à quoi nous tenons le plus. La hanche, pour ceux qui étudient l'anatomie et surtout les squelettes, c'est l'endroit de la force. Et quand on étudie les mammifères, on montre que leur vigueur, c'est à ce niveau. Job chapitre 40 au verset 1, parlant de l'hippopotame. Écoutez ce que la Bible dit. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans le muscle de son ventre. Quand Dieu veut briser, il touche à l'essentiel. Ce sur quoi nous nous appuyons, ce qui fait notre aura, permettez-moi les termes, notre valeur. Cinquième et avant-dernier principe, les brisements peuvent toucher n'importe qui. Les brisements peuvent toucher les païens. Et quand Dieu brise les païens, il veut leur montrer qu'il est Dieu et faire cesser leur arrogance. Les brisements peuvent toucher les enfants de Dieu parce que Dieu veut les rappeler à l'ordre, mais ils s'entêtent. En général, les brisements pour les enfants de Dieu n'est la solution de Dieu que pour ceux qui s'entêtent. Dans Proverbe 20 et 29, au verset 1er, la Bible dit, un homme qui mérite d'être repris et qui raidit son cou sera brisé. Un homme qui mérite d'être repris, d'être corrigé, mais qui raidit son cou sera brisé. Et la Bible dit, sera brisé subitement et sans remède. La version des semeurs dit ceci, celui qui se raidit contre les reproches ou les avertissements de l'Éternel sera brisé soudainement. Et je suis épaté par ce que le semeur dit, et il ne s'en remettra jamais. Vous savez, j'ai appris avec les années dans le Seigneur, Dieu pardonne, mais les gens n'oublient pas. Tu peux avoir commis une bêtise, tu es à la base d'un scandale. La minute d'après, tu vas prier. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous nos transgressions.
mais tu auras une étiquette que tu vas coller tout, qui t'accompagnera toute ta vie. J'ai souvent suivi la télévision à partir de mon bureau. Cet homme qui a marqué ma jeunesse. Je l'ai découvert en 85 ans, prédicateur. J'ai avalé ses prédications. À l'époque, on faisait louer ses cassettes VHS à la borne. J'ai suivi Jimmy Swaggart chaque semaine. Il m'a ébloui, il m'a épaté. On était dernièrement en train de suivre la télé. Où il prêchait dans mon bureau. Le pasteur Atom s'est regardé et dit, qu'est-ce que son église est vide. Et la deuxième des choses que le pasteur Atom s'est dit, il dit, dans cette église, il manque une génération. Il a vu les très vieux. Ce sont des caciques qui l'ont aimé. Malgré les scandales, ils disent, tout qu'il ne se soit pas. Tout le monde est là sur l'église. Là, nous cherchons une autre église. Et puis, il y a des trop jeunes qui sûrement n'étaient pas là quand il est tombé. Mais il y a une génération qui l'a perdu. Quand je les vois prêcher, c'est la même profondeur. J'ai suivi un enseignement qu'il faisait sur les Galates, richesse sur richesse. Mais il a perdu. On sent, il y a en filigrane la honte. Il y a des choses qu'il ne sait dire. Un ami s'est retrouvé à Bruxelles avec des hommes qui a marqué le pays par l'évangile, mais qui est tombé par un scandale. Et il était assis en face de lui. Il m'a dit, Roland, c'était né, il était assis là où tu étais. Et il m'a parlé en une heure en pleurant. Il dit, ça coulait des yeux, ça coulait des narines. Il a dit en citant son propre nom, j'aimerais que de moi qui en ai un seul, ne commettez pas les mêmes bêtises que j'ai eu à commettre. Il lui a dit, aujourd'hui à Kinshasa, il ne me reste plus que la grâce. Tout est perdu. Il dit, sur 10 églises, 9,5 me ferment les portes. Ils ne pourront plus jamais me recevoir. Il dit, à cause de moi-même. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit son cou sera brisé et il ne s'en remettra pas. Sixième et dernier principe, c'est que le brisement n'est pas quelque chose d'obligatoire. Il dépend souvent de nous. Car c'est le bras de Dieu qui s'allonge pour prendre ce que nous n'arrivons pas à lui donner sans contrainte. C'est ça le brisement. Les brisements, c'est les bras de Dieu qui s'étend pour prendre de nous ce que nous ne lui arrivons pas à lui donner. J'aimerais dire, comme quelqu'un a chanté, Dieu c'est Monsieur Raison. Ce que tu ne veux pas lui donner, il sait comment les prendre. Mais j'insiste, les brisements n'est pas obligatoire, tu peux l'éviter. Lorsque les brisements arrivent, ils nous arrachent quelque chose, ils nous font perdre quelque chose de visible, quelque chose que les autres verront et constateront. Les brisements laissent toujours des traces et des cicatrices. Genèse 32, verset 21 que nous avons lu. Le soleil se leva lorsque Jacob passa Peniel et Jacob boitait de la hanche. Malgré ses efforts, il ne pouvait se cacher. Tout le monde savait que quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est pourquoi en terminant ce matin, j'aimerais faire deux choses. La première, citer ces merveilleux passages d'Ézéchiel 3, 17 à 19. Et 21 que Dieu m'a donné quand j'ai prié avec larmes pour cette réunion. Il m'a dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Mais je peux dire, en paraphrasant, sur la maison de Philadelphie. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Mais j'aime ce qui est dit au verset 21. Mais si tu avertis les justes de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. As-tu écouté les paroles de cet avertissement? Sinon, tu vas te briser. La dernière des choses que je fais, je lance cet appel. J'aimerais demander aux musiciens de remonter. Attirez-moi à toi, ne me laisse pas. Dieu m'a dit le premier appel que j'aimerais lancer dans deux directions. Il m'a dit, Roland, que personne ne ferme les yeux. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire Dieu m'a parlé? Ce message, c'était à moi. Je suis en train de tisser du mauvais coton. Dieu m'a parlé à plusieurs reprises. Et ce matin, j'aimerais lui dire, Seigneur,
J'abdique. Je refuse le brisement. Je viens moi-même et donner à toi. Pendant que les cantiques seront en train de jouer, viens, mets-toi à genoux. J'ai dit, Dieu m'a dit, cet appel, je vais le faire les yeux ouverts. Si tu as peur du camp, dira-t-on, ce n'est pas mon problème. Je lui dirai, Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai lancé cet appel. Il y a quelqu'un dont le cœur bat la chamade. Tu sais que Dieu t'a parlé. Tu sais que Dieu veut te guérir. Tu sais que Dieu veut te parler. Si d'aventure personne ne vient, je lui dirai, Seigneur, ce jour-là, je fais ma part. Je fais ma part. Ici à Lisanga, venez. Seigneur, je ne veux pas un scandale. Je ne veux pas que tu me brises. Je ne veux pas boitier à vie. Je ne veux pas passer par un processus duquel je m'en remettrai jamais. Dieu a parlé à ton cœur. J'en ai conscience. Et tu n'as qu'une option. Viens. Oublie tes responsabilités. Oublie qui est à tes côtés. Oublie les commentaires de ceux qui te verront. Du reste, s'il y a un spectacle, c'est dans nos cœurs, pas ailleurs. Oublie ton titre de pasteur, d'ancien, de diacre. Oublie cela. Viens. Sinon, comme Jacob, tu te rappelleras de ces jours. Attirez-moi à toi. Ne me laisse pas. Il y a quelqu'un dont la place est ici. Dieu veut te faire du bien en ces jours. Il a placé ce message dans mon cœur et sur mes lèvres. Je prie qu'on ferme les portails, que personne ne sorte. Que personne ne sorte. Il est même à peine 9h28. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a quelqu'un qui doit avancer. Viens. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu es tout pour moi. Brisé. Changé. Diminué. Mais béni. Brisé. Changé. Diminué, mais béni.
Garde-moi près de toi.
Garde-moi près. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, tu es tout pour moi.
Vous avez été touché par ce message, vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à nous contacter s'il vous plaît au numéro 089 80 48 889 ou le 099 93 61 670. Retrouvez-nous sur le site www.cmphiladelphie.org. Venez communier avec nous sur l'avenue de la science au numéro 4935, référence École La Puisette, Kinshasa-Gombe. Dieu vous bénisse.